Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Cornelia Paris, qui est responsable digitale à The Jokers. Bonjour Cornelia.
Bonjour Alexis, enchantée.
Bon, je vais encore prendre mon pied pendant ce podcast, puisqu'on va parler de cinéma à nouveau, ma grande passion, et avec des sacrés films que sort The Jokers. Mais avant d'en arriver là, tout d'abord, Cornelia, dis-nous les grandes lignes avant d'arriver à The Jokers.
Les grandes lignes de mon parcours, c'est assez varié. Moi, j'ai commencé en com digital. J'ai un master en com digital à la base. Avant ça, j'avais fait un bachelor en com 360 parce que je voulais voir vraiment tous les aspects du métier de la com, du market, pour avoir une notion rien que de comment ça se passe dans l'industrie. Et donc ensuite, je me suis spécialisée en digital. J'ai bossé pendant quelques temps en agence vidéo et web. Mmh. Enfin, l'agence était une agence de com vidéo.
Qui s'appelait comment, cette
agence? Qui s'appelait Rolf, qui n'est pas à Paris.
Rolf, ok.
Ouais. Et puis, j'ai amené le côté web dans l'agence. Et puis, au bout d'un moment, j'ai décidé de partir pour des raisons un peu... artistique, etc. Et j'ai continué de bosser dans le market digital jusqu'à ce qu'on propose plus ou moins une offre de digital communication manager pour un lab de cinéastes en Europe. Et donc là, j'ai monté ma boîte et je me suis lancée.
Ça s'appelait comment alors ce lab de cinéastes ?
Tatino. Alors c'est Tatino qui a différents labs qui sont First Cut Plus, First Cut Lab, Pop-Up, ils ont des résidences. Ils ont
c'est plus... français ? C'est
un... Non, ils sont... Ils sont un peu dans toute l'Europe, les freelances, mais sinon, ils sont basés en Slovaquie, à Bratislava.
D'accord. Et ça fait la promo de cinéastes, je crois, indépendants, c'est ça, un petit peu ?
Exactement, ouais. Des films indés, ils les aident vraiment en réunissant des experts super quali souvent, que ce soit experts montage, scénario, marketing.
Sympa, ça. T'as fait combien d'années, ça ?
J'ai fait ça plusieurs mois, années. Ensuite, je suis commencée chez TF1.
Ouais.
Et j'ai continué un peu, mais après, le rythme est devenu vraiment trop dense pour faire et la boîte et TF1. Mmh. Donc voilà, et donc TF1, où j'étais à la régie pub ciné, pour mettre en place les OP des distributeurs sur les espaces pub TF1, et ensuite The Jokers.
Et TF1, combien de temps t'as fait ?
Un an.
Un an, après, ok. Ouais. Et donc The Jokers, là, que donc tu rentres chez un grand distributeur indépendant,
ouais.
Bah, qui a sorti notamment Parasite et qui est spécialisé dans du cinéma un peu audacieux et même coréen notamment aussi, on va en parler.
Connu pour ça, oui.
Ça, c'était... Alors, donc, tu avais cette passion du cinéma finalement depuis le départ. C'était parce qu'on voit le fil rouge quand même.
Ouais. Même, j'avais la passion de la prod ou de l'audiovisuel, je ne savais pas. J'avais même fait des stages à Vivement Dimanche quand j'avais 15-16 ans, tu vois.
Ah oui, Vivement Dimanche, carrément.
Avec Michel Drucker,
avec Michel Drucker, sur le canapé.
Exactement, ouais, c'est
mais
vrai.
Ça devenait d'où, cette la passion de... C'était personnel
pas.
Ou
ouais,
c'était
ouais.
Que c'était pas forcément dans ton entourage et tout?
Non, parce que ma famille, ils nous montraient pas beaucoup de films. Donc, tu vois, c'est un truc que je développais plutôt moi. Et à un moment donné, le cinéma, ça a pris une place. Je regardais, je sais pas, deux films par jour, quoi. C'était dès que je me levais le matin, je regardais un film et je rentrais le soir, je regardais des films.
Quand t'étais ado, un peu comme moi, t'étais un peu ton refuge, quoi.
Complètement.
T'as eu quoi comme choc un peu quand t'étais plus jeune
Enfin,
t'es toujours
beaucoup.
Jeune, hein, mais dans tes films, entre guillemets, coup de poing qui t'ont peut-être dit « Ah ouais, j'aimerais bosser là-dedans ».
Franchement, je regardais beaucoup de cinéma français avant de commencer. Tu sais, tu oses un peu ou tu sais pas quoi regarder au début, surtout quand t'as pas l'entourage qui a une culture cinématographique énorme. Mais Wes Anderson a été un des gros... Enfin, je me rappelle
Anderson,
parce que moi, je passais mes... mais nouvel an, c'était un peu ma tradition à regarder des films au moment du passage. Donc soit j'étais en salle, soit j'étais chez moi, et ensuite j'allais rejoindre mes potes. Mais je me rappelle de Grand Budapest Hotel qui a été un tournant. Ouais.
Un film un peu d'univers ultra barré. Pas, ouais. Alors t'as un autre Anderson qui est fort, c'est Paul Thomas Anderson aussi.
Oui, c'est vrai, pardon, je parlais de...
Il y a Magnolia, moi, qui m'avait marqué, La Chute de Grenouille.
Incroyable.
Quand j'étais ado aussi. Il y a des films comme ça qui ont marqué des années 90 ou 2000.
Ouais. Il y a des films où on ne sait pas pourquoi. Enfin, on sait que ce sont des grands films, mais on ne sait pas pourquoi ils nous touchent particulièrement. C'est des films.
T'as été autant touché d'ailleurs maintenant ou peut-être qu'il y a 15 ans, parce qu'il y avait un âge un peu fort entre les années 90-2000 ou.
Bah, maintenant que, entre guillemets, même si je suis toujours jeune, l'âge, enfin, je prends de l'âge et donc je deviens de plus.
Oui, c'est pas le même rapport au visionnage.
Voilà, les sentiments sont plus difficiles à faire naître, ou tu deviens plus exigeant peut-être, mais.
Oui, c'est vrai.
Mais en tout cas, non, il y a toujours des films qui mettent des claques actuellement. Hein.
Alors, on arrive sur The Jokers, qui est donc la société de distrib où tu travailles. Donc, The Jokers, quel âge ils ont ?
9 ans, c'est 2014.
9 ans. Alors, pourquoi Jokers ? Ils voulaient être le Jokers dans le monde de la distrib ?
Honnêtement, je sais pas, ça peut être ça. Faudrait que je demande à Manuel Chiche qui l'a fondé, mais je sais même pas. En
d'accord.
Fait,
et donc, c'est Manuel Chiche qui l'a monté. Et lui, de mémoire, il était déjà un peu dans la distrib ou l'édition
Il était chez Wildside. Il a eu un immense parcours.
Chez Wildside, qui était le petit chat, là.
Exactement.
On le voit dans l'icône un peu des éditeurs vidéo, pas mal, hein, au
aussi,
départ.
Aussi, ouais. Mais toujours, hein, d'ailleurs, Jokers.
Donc, comment tu l'as défini, toi, cette boîte Jokers, aujourd'hui, comme tu es arrivé là-dedans?
Pour moi, c'est comme ça qu'on me l'a présenté quand je l'ai connue, quand on me disait « Oh, c'est Jokers !» Et que donc, je commençais à regarder un peu le line-up et tout. C'est une boîte, donc, à la base, cinéma coréen, donc, qui est connue pour ça. C'est une boîte qui est, pour moi, assez impertinente, un peu rebelle, le petit rebelle de la profession, voilà, qui va essayer de sortir des films un peu différents, qui sont souvent entre deux genres. Qui sont aussi du cinéma de genre et voilà, qui se diversifient maintenant depuis Parasite, mais notamment sur du ciné français. Mais voilà, c'est un peu pour moi le petit impertinent. C'est ce que
petit j'aime. Impertinent, ok. Donc ça, c'est intéressant. Et le lien au cinéma coréen, ça venait d'où finalement?
Ça vient des relations de Manuel, qui est très proche de Bong Joon-ho, qui est proche de Park Chan-wook aussi. Ouais. Donc voilà, ça vient de sa cinéphilie en fait.
Alors on va aller bien sûr sur ton métier de la com digitale, mais on va commencer par le cinéma, évidemment la passion. Donc là en plus, Cornelia était super sympa, elle nous a amené pas mal de titres, donc je vais pouvoir en parler. Alors forcément à gauche, là j'ai peut-être le film qui a le plus marqué ces 15 dernières années, Parasite, donc de Bong Joon-ho. Qui est donc sorti en 2019 et qui a eu la Palme d'Or, juste avant que le Covid arrive, puisqu'il nous en a parlé, Gustave, de film du Losange, qui était au RP et qui a eu la chance d'assister à tout ça, parce que ça a été un choc.
Il était au Public System, je crois. Oui, ça a été un choc.
Parce que non seulement il a cartonné au niveau critique, mais il a été un grand succès public. Il a fait combien d'entrées?
Là, il est à 2 millions quasiment.
En France, il a fait plus de 2 millions, je crois.
Là, c'est ça, c'est 2 millions. C'est effectivement un des films d'auteur, et alors, en plus sur du cinéma coréen, etc., qui est une vraie. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de comparable.
En tout cas, c'est vrai, un film que j'avais adoré, qui était à la fois coup de poing, un peu société, une mise en scène incroyable, très narratif d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a eu Sans Filtre aussi qui a été fort, mais Parasite avait un côté plus narratif.
Il y a une approche artistique qui est très novatrice, qui est pour moi différente des autres films qu'a fait Bong Joon-ho, même si c'est des masterpieces aussi, mais malgré tout qui reste assez accessible, pardon, au grand public, et je pense que c'est pour ça que ça a fait 2 millions d'entrées.
Voilà, donc après on a d'autres films que tu nous as amenés, donc il y a Inexorable, L'Origine du Mal, Blood, La Nuée, Memories of Murder, qui était son premier chef-d'œuvre, Bong Joon-ho, il y a Hunt, donc des super thrillers. Donc franchement, c'est vrai qu'on voit que le cinéma coréen, c'est quand même du lourd, quoi. Et c'est comment t'expliques d'ailleurs que ça a été aussi dynamique, ce cinéma coréen, et aussi fort sur les thrillers notamment?
Je pense qu'ils ont une vraie différence, une vraie habilité à montrer un autre cinéma de genre. Maintenant, sur les dernières années, je l'explique plus avec l'émergence des plateformes, notamment là, ces derniers mois, voire cette dernière année, le cinéma coréen est beaucoup plus mis en avant et beaucoup plus démocratisé, notamment pour les jeunes. Maintenant, sur le début des années 2000, je sais pas.
D'accord. Pas en tout cas, un côté très coup de poing, parce que même tous les films de Bong Joon-ho, comment il s'appelait celui avec les cochons là, qui était horrible
Okja.
Okja, Okja, ça a quelle claque aussi, ce film là.
Donc, et qui était sur Netflix, et qui, il me semble, a fait des bonnes perfs. Enfin, voilà, qui a eu.
Donc, en tout cas, c'est vrai que des films super audacieux. Et donc, je crois aujourd'hui, votre line-up s'ouvre un peu. Hein, parce que j'ai vu qu'il y a le film de Gondry qui va sortir avec Pierre Niney, le livre des solutions.
Complètement.
Ça, ça sort quand ça?
Ça sort le 13 septembre. 13 donc septembre. Là, c'est notre. Alors, on a un film qui sort mercredi prochain, mais sinon, c'est notre prochaine grosse sortie, le livre des solutions, sur lequel nos efforts vont être concentrés. Là.
Alors, la semaine prochaine, on va parler un peu des sorties à venir de
The
Jokers.
Alors, la semaine prochaine, on a Junior, qui est un premier film avec Vanessa Paradis, notamment, qui est une comédie un peu, mais comédie auteur, relation maman-ado, on va dire. Très sympa. Et ensuite, le livre des solutions, donc le nouveau Michel Gondry, donc, qui est très attendu.
Qui avait fait Eternal Sunshine avec Jim Carrey, donc un grand cinéaste.
Ouais, c'est ça, Beacon Rewind, etc. Et puis, donc voilà, donc, qui a été présenté à Cannes, qui a eu un accueil fou.
Ouais. Il a eu un prix ou pas? Il était à la semaine
Non, il était à la quinzaine.
D'accord. Et redis le pitch un peu de Livre des Solutions.
Alors, Livre des Solutions, c'est tout simplement l'histoire autobiographique de Michel Gondry qui va refuser que ses producteurs dénaturent son film et donc partir chez sa tante, finir de monter son film. Sauf que la petite particularité, c'est qu'il ne veut pas voir son film. Donc, la monteuse le monte et lui, il ne veut pas le voir. Et donc, il va trouver plein de subterfuges drôles pour s'en éloigner et essayer de monter autre chose à côté.
Donc, c'est sur la création, quoi. Sur vraiment le lien à la création, les affres de la création.
Mais autre que ciné, ça peut être vraiment la création au sens large. Quoi. On crée tous au quotidien et c'est ce rapport aux choses qu'on crée.
Bon, alors donc ça, je pense qu'on a bien fait le tour sur les films. Peut-être reparler, donc la grande sortie qui est attendue, c'est vraiment le Livre des Solutions, tu dirais?
Ouais. Okay. Là, c'est notre grosse sortie. On a eu des grosses sorties aussi cette année ou des grosses attentes sur d'autres films français. Mm-hmm. Et puis, donc, qui était De Grandes Espérances, qui a très bien fonctionné, qui était un thriller d'auteur aussi, que je t'ai mis, je crois. Il me semble que je l'ai mis. Tu regarderas avec Rebecca Marder et Benjamin Laverne. Marinette, qui était malgré tout un gros enjeu. Et puis le Livre des Solutions.
Alors Focus Métier, on va parler un peu de la distribution parce qu'on n'a pas eu que des distributeurs à ce micro pour que les auditeurs comprennent. Donc c'est vraiment la personne qui prend le risque quand même dans le financement parce que c'est lui qui va faire le minimum garanti et sortir le film. Tu peux parler de tous ces enjeux de la distrib et du marketing lié à la sortie d'un film?
C'est des petits coups de poker à la distribution, c'est-à-dire que surtout dans les petites boîtes indées, on remet en jeu un peu, je ne vais pas dire tout ce qu'on a, mais on remet en jeu beaucoup à chaque sortie. Donc, il faut être bon sur la définition précise des cibles, sur la définition précise de OK, qu'est-ce qu'est le film et en même temps qu'est-ce qui peut marcher en termes de marketing, c'est-à-dire qu'on ne va pas mentir sur un film, mais en même temps, il faut correspondre aux attentes du public. Donc voilà, c'est
il faut toujours bien mettre, parce que souvent la difficulté, c'est qu'il faut mettre dans des cases.
Ouais. Et c'est très difficile chez Jokers. Et ça, on est tous d'accord là-dessus.
Surtout avec des parasites, souvent les bons films, ils sont entre deux genres, quoi. C'est pas que du drama, du thriller, les très bons films, ils peuvent avoir un côté
ovni.
Mais
pas forcément ceux qui marchent en termes d'entrée, tu vois. C'est toujours un peu la difficulté. C'est effectivement, les très bons films sont entre deux genres. Parasite, c'est pas le parfait exemple. Mais le public, ou pour vendre ton film, t'as besoin quand même de le positionner de manière concrète parce que t'as très peu de temps pour attacher le regard ou faire connaître le positionnement. Donc t'as besoin d'être le plus clair possible.
Vous êtes
une vingtaine.
Une vingtaine chez The Jokers.
On est quatre au market, plus des stagiaires et des aides. Il y a une personne à la vidéo, il y a quatre personnes à la prog, et une ou deux à la technique.
Donc c'est quand même une belle boîte indépendante. Ouais. Alors on va aller sur ton métier de la com digitale, parce que donc c'est toi, ça a été ton sillon ces dernières années. Alors comment ça s'organise pour toi une journée de communication digitale et qu'est-ce qui devient le plus important pour toi sur ce volet qui a été longtemps pas forcément la première roue du carrosse du market,
qui prend de l'importance,
mais qui le devient, on dirait.
Les journées, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, les journées ne se ressemblent absolument pas. Je fais rarement la même chose, même si les missions principales sont les mêmes. tous les responsables de Digit te le diront dans les voies des distrib. Mais en gros, moi, le but, c'est de créer les partenariats autour des films, donc d'aller chercher les médias ou hors médias parfois pour créer les partenariats, c'est de gérer l'influence, c'est de gérer les attachés de presse. Okay, quel attaché de presse je veux sur tel film. C'est beaucoup la strat et les concepts de com digitaux qui ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la com un peu plus large. Donc voilà, c'est les allers-retours créa avec les agences pour les modules vidéo, pour les créas statiques. Le community management aussi, puisque c'est moi qui le fais souvent. Et puis,
tu fais en direct ça ou t'as dans tes équipes? Non, c'est toi qui le fais.
Non, la mise en ligne, du moins, je la fais moi. Après, j'ai soit pour les créas, enfin, j'ai et des agences et j'ai des créas que je fais faire en interne. Et puis, voilà, qu'est-ce que j'aurais oublié? Ben, les événements un peu spéciaux. Sur des concepts de com qui me font rire et que j'ai envie de faire. Ou...
Les suivis de projo, d'avant-première, tu fais aussi toute cette partie événementielle un peu?
Ouais, alors les avant-premières, quand il y a de l'influence, moi enfin, je suis là pour filmer, etc., pour créer des contenus, pour accueillir les influenceurs et suivre les reporting, mais les attachés de presse font beaucoup ça.
D'accord. J'ai vu que tu citais les attachés de presse digitaux aussi dans ton...
Qui ne sont pas forcément les mêmes que les attachés de presse du film.
Ça, c'est un nouveau métier qui se développe pas mal alors.
C'est
vrai. C'est du PR digital, quoi.
C'est ça.
Comment tu le définis, ça?
Ben ça, écoute, ils vont gérer, selon ce qui est défini avec les autres attachés de presse et moi, ils vont gérer tout simplement...
Les médias online.
Les médias online.
Donc les sens critiques, les blogs.
Les blogs. Ils font plus l'influence parce qu'on s'est rendu compte avec De Grandes Espérances que... Enfin, quand je suis arrivée dans la boîte, il me semble qu'ils le faisaient. Au moment de De Grandes Espérances, on a proposé au réalisateur Sylvain Descloux de passer en direct avec les influenceurs. Moi, je lui ai dit, ok, écris-moi un texte où toi, tu te présentes, tu dis, ok, je suis Sylvain Descloux, je suis le réalisateur de Grandes Espérances, j'aimerais... Et en fait, il y a beaucoup plus de retombées comme ça, parce que tout simplement, il y a un sentiment
plus direct,
d'être
quoi.
Privilégié et c'est beaucoup plus naturel.
Donc en termes de format, la vidéo devient de plus en plus importante.
Ouais, la vidéo est essentielle. Il y a un retour du carrousel quand même, que moi je commence à réutiliser beaucoup avec nos partenaires médias, qui marchent. Là, on a un carrousel même qui va sortir, qui fonctionnera assez bien, je pense, sur ce format. Sinon, beaucoup de vidéos avec des créations de formats un peu originaux. Donc en gros, on a 3 vidéos à faire avec l'agence. Quel axe stratégique on met en œuvre sur chaque vidéo pour essayer de toucher telle cible sur ça, pour montrer tel angle sur ça, etc.
Ok. Donc après, donc t'as les sorties, ça c'est le gros, c'est la mise en avant des films.
Ouais.
Mais tu dois aussi développer la communauté de Jokers. Il y a un peu des deux, quoi.
Ouais. Souvent, c'est un peu compliqué, mais là...
Oui, c'est le problème du cordonnier, on a le même problème.
Vous avez ça aussi.
Non, mais je pense que toutes les agences vont être plus sur leurs clients, et après, c'est toujours un peu plus dur de faire sa propre pub,
complètement,
entre guillemets.
Et la communauté de Jokers, elle est très cinéphile, elle est très cinéma coréen. Donc, quand j'essaye de mettre en avant un film comme Junior ou ses relations maman-ado, moi, je sais que ma communauté, ma cible, elle n'est pas dans
Faut
ma
aller
communauté.
Chercher des nouvelles personnes.
Donc, voilà. Et en même temps, quand j'essaye de parler de Chonchon et en même temps du dernier film de Paul Schrader, on est sur des
écart.
Trucs qui sont... Et il faut quand même que dans le feed, ça soit pas trop bizarre. Donc c'est assez marrant.
Et alors, combien de temps ça commence avant la sortie d'un film? On va faire un petit tuto pour les auditeurs. Combien de temps avant la sortie, tu commences à plancher sur ta com digital, toi?
Deux mois et demi minimum.
Donc tu t'intègres déjà au plan market global.
Ouais. En fait, on fonctionne, on a une pré-réunion. Donc vraiment, la presse, le directeur de la distrib, etc., où on parle du film, ok, où on veut aller. Ensuite, on réfléchit chacun et on arrive avec une stratégie. Moi, digital, ok, je vais aller avec tel partenaire, j'ai envie d'étudier tel concept, j'ai envie de faire tel événement marrant, voilà. Et là, on redéfinit ensemble les axes. On recrée toute une strate à l'écrit.
Tu fais tout ton calendrier édito, ensuite tu programmes tous tes posts et tes contenus.
Et c'est ça, je définis avec quel agent je veux bosser. Donc IRP, digital, etc., créa. Et puis ensuite, on déroule comme ça.
D'accord. Ouais, donc c'est quand même beaucoup de boulot. Et alors après, il y a des contenus d'impact pour vraiment au moment de la sortie. Et après, des choses un peu plus always on pour faire vivre, contenu making-of,
c'est ça.
Suivi.
Ouais, il y a de ça. Mais ça, les contenus making-of, bah là, on vient de lancer un format. Justement, tu parlais de l'image de marque de la boîte. Moi, je me suis dit, ok, comment je vais faire pour que la boîte, même si c'est un petit distribuandé, soit reconnu comme quand même un distrib important avec des visages importants et notamment de cast. Et je me suis dit, ok, bon, bah, on va faire un format où je vais interviewer chaque grand acteur ou chaque grand réalisateur, mais pas sur le film, Donc, je leur demande de me pitcher trois films et de me faire deviner trois films.
Là, ça, tu le fais sur The Jokers.
Ouais, ça, je viens
et
de le sortir.
Et qui alors, en réel ou en comédien?
Alors là, on vient de faire le premier avec Joel Edgerton. Et sinon, j'ai eu Michel Gondry, Pierre Niney, Vincent Elbaz, Song Kang-ho, Vanessa Paradis, Kim Ji-woon.
Donc, c'est toi l'intervieweuse, là.
Ouais, là, je fais mon passé de vidéo m'aide. Mais et du coup, on produit des formats un peu comme ça pour aider les films.
En même temps. Ils relaient ? Tous les gens relaient derrière le contenu ou ça dépend, tu dirais ?
Ça, on les poste nous et ensuite, Joel Edgerton ne l'a pas fait, on verra sur Pierre Niney, etc.
Tu vas mollo sur les faites-le ou pas, quoi. Ça reste les gens qui sont libres.
Pour l'instant, vu qu'il est à l'international, c'était un peu plus compliqué, mais sur les Français, je pense qu'il y aura des relais.
D'accord. Alors, qu'est-ce qui se joue finalement sur les sorties de films ? C'est finalement parce que tu as encore l'impact média et la presse, ils jouent très important. Tu dirais le digital, c'est que ça va chercher des publics complémentaires, c'est une petite réassurance, mais c'est la petite cerise sur le gâteau, en fait.
C'est ça, c'est qu'on ne peut pas refaire un film. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est le film, il se fait lui-même. Nous, on est là vraiment pour l'aider. Ensuite, la presse fait le boulot et les spectateurs font juste le boulot.
Ouais. Ça se joue beaucoup quand même dans les premiers jours.
Les films chiffres, français, et notamment sur les films français, là, on sait qu'on va tout mettre avant ou jusqu'au jour de sortie. Ensuite... les dés sont plus vraiment entre nos mains. On peut aider, essayer de soutenir, mais toutes nos campagnes sont prévues sur les films français pour s'arrêter entre guillemets au jour de sortie.
C'est vrai que c'est plus dur qu'avant parce que forcément Covid ça a changé la donne et on dit j'ai entendu mais avant des trucs faisaient 700 000 maintenant ils font 300 000. C'est un peu plus la guerre quand même pour faire venir les gens en salle et obtenir des grands chiffres.
Là les chiffres sont bons et ça repart bien. Bon, il y a eu par rapport à 2022 il y a une légère baisse etc. Mais n'empêche que les chiffres
toujours mieux que le Covid.
Voilà donc ça repart bien mais n'empêche qu'il y a il y a une grosse concurrence notamment sur les films indés. Même je crois que c'est 45% à peu près de part de marché pour les films français, donc il y a une vraie concurrence et surtout sur les petits films indés, c'est...
D'accord. Et prime au film événementiel, ça il paraît que de plus en plus ça devient de plus en plus expérientiel.
Complètement.
Et que alors forcément les grands films ricains, les Missions Impossibles, les Nolan, c'est dur de rivaliser avec ces gens-là.
On n'est pas forcément sur les mêmes cibles non plus, parfois oui, mais effectivement on va juste pas chercher les mêmes cibles. Donc,
après parfois ça auto-entraîne aussi parce que ça refait venir les gens en salle des titres.
C'est vrai.
Et ça peut refaire venir sur des petits titres.
Et ça leur donne envie. Après, pour répondre à ta question, effectivement, tout l'enjeu en digital est d'aller chercher, moi, c'est ma réflexion pour le coup que j'avais ce matin sur le livre des solutions, c'est est-ce que je sécurise ma cible de base ou est-ce que je peux me tenter à plus ou est-ce que je fais uniquement une cible plus large ? Voilà, c'était
des questionnements. Ouais. Alors, petite question un peu technique sur comme on est en com digital, nous, on est tous le métier du brand content, brand entertainment. Ouais. Alors déjà, canaux social media, tu privilégies toujours l'ensemble des canaux, donc TikTok aussi, Insta, qu'est-ce que tu privilégies ? Parce que c'est dur d'en lancer plusieurs. Qu'est-ce qu'il faut prioriser pour un film pour toi ?
Sur nos films à nous, vu qu'on est souvent sur une cible assez âgée, c'est Facebook, Insta.
D'accord.
J'ai en tête depuis quasiment le début où je suis arrivée de faire un TikTok qui soit très axé cinéma coréen, un peu ce côté manga, un peu ce qu'on aime sur TikTok ou ce qui est notre valeur ajoutée. Et je pense que dès que j'ai le temps, je le ferai.
D'accord.
Sur les films, c'est Facebook, Insta. On a fait à un moment donné du Twitter quand on avait de grandes espérances parce qu'il y avait un enjeu politique. On avait fait LinkedIn aussi. Mais pour l'instant, ça reste assez...
Oui, t'en lances pas non plus 3-4. Tu préfères en prioriser bien 2 que... parce que c'est beaucoup de boulot quand même.
Et parce qu'on n'a pas forcément les budgets pour en lancer plus.
Sort de budget aussi, quoi.
C'est que si je lance sur des tout petits budgets à chaque fois, je vais pas avoir d'embarque.
Et tu lances une page à chaque fois. Quand t'as un nouveau film, il faut lancer la page qui est distincte de la page distrib ou ça dépend.
Je le fais pas.
Tu peux l'inclure, parce que sinon c'est une usine à gaz, quoi.
Et parce que les contenus sont peut-être pas forcément assez nombreux pour le faire. Et sur des gros films, c'est intéressant. On va lancer des petits sites aussi. Il y a des boîtes qui proposent ça maintenant. Des mini-sites vraiment dédiés.
Ça, c'est bien. Tu trouves ça bien le faire ?
Là, ça reprend de l'essor, ouais.
Parce que tu peux faire aussi dedans des call to action, des inscriptions, des places à gagner.
C'est ça. On peut recréer l'univers du film. Et je pense que... je vais le tester là, notamment sur le livre des solutions. Et je pense que ça pourra avoir effectivement son effet.
Il n'y a pas une manière de prolonger l'effet ? Parce que ce qui est très frustrant, c'est que tu te dis, ça tout dure 2 mois, puis derrière, tout disparaît.
Mais il faut prolonger l'effet, notamment pour la vidéo, pour les ventes télé. Enfin, faut essayer d'aider aussi parce que la sortie salle crée toute la carrière du film. Donc
les plateformes qui arrivent derrière.
Ouais.
Mais c'est pas toujours coordonné. La difficulté, c'est que derrière, quand la plateforme elle prend le film, elle va reprendre la com digitale ou un truc comme ça, non?
C'est ça. Et la vidéo le fait mon collègue Guillaume qui travaille beaucoup aussi. Donc c'est lui qui crée ses propres contenus vidéo. Okay. Et pour mettre en avant un peu les sorties DVD et tout ça. Donc on essaye de faire durer au plus possible, mais il y a les nouvelles sorties qui arrivent.
Les formats, donc la bande-annonce, ça reste le contenu phare.
Oui,
donc c'est du 30, tu dirais quoi, 30-60 secondes, une vraie bonne bande-annonce.
Un peu plus, ouais. Un 30 secondes, c'est vraiment un spot spécifique qu'on va créer soit parce qu'on veut faire une OP en télé ou en télé digitale ou ce genre de truc. Ou YouTube, donc les 20-30 secondes, et sinon c'est un peu plus, ça peut être une 30.
Une bonne bande-annonce, tu penses? Pardon, elle est vue par combien de personnes minimum?
Ça se compte en millions,
mais ça dépend du budget qu'on va mettre sur YouTube.
Ça dépend du budget que tu mets.
Ok, donc ça c'est.
Ça dépend, y a des bandes-annonces qui marchent très bien parce que souvent moi je les mets en exclu chez des médias, et donc selon le média, et si t'arrives bien à toucher le bon média par rapport à ta cible, le truc fonctionne très bien même s'il n'y a pas de sponsor dessus.
Ok. Sur les ayants droit, ça c'est une question que je me posais parce que moi j'avais bossé il y a longtemps, j'avais commencé chez Studio Canal en stage, donc vois, j'étais un peu là-dedans.
Ah, t'étais quand même dans le ciné.
Été un peu dans cette veine, mais ce qui est toujours intéressant, c'est comment les ayants droit donnent droit à des contenus. Parce que souvent dans le cinéma, il y a quand même un peu le côté parano de est-ce que je montre ou pas. Ça bouge, tu dirais, ça dépend vraiment des cas.
Quand t'es distrib, tu veux dire qu'est-ce que tu montres dans ta bande-annonce?
Oui, et à quel moment je montre et quoi? Il y a souvent ce dilemme, quoi. Est-ce que je dévoile, je tease sans montrer? Ça, tu dirais, c'est vraiment spécifique suivant les producteurs de chaque film ou...
c'est le distrib qui le fait, donc c'est spécifique selon le distrib, effectivement, ce que veut le prod aussi. Sur Master Gardener, c'était notamment un enjeu, maintenant qu'il est sorti, je peux le dire, de savoir si on montrait le dos avec les tatouages nazis de Joel Edgerton ou pas.
Ah oui.
Est-ce qu'on le montre dans la bande-annonce ou pas?
Et vous l'avez fait ou pas?
Non, on le voit pas vraiment. On le voit pas vraiment parce que...
J'avais peur que ça donne une mauvaise intention ou...
Ouais, ça pouvait être ça, et les enjeux stratégiques du film n'étaient pas... C'était un peu plus un film... Alors, le FA le reflète ou pas, mais c'était un film qui était plus pour les femmes, un peu 50 et plus, donc... Enfin, une partie de la cible, donc c'était pas forcément super affinité.
Quelle bande-annonce t'as trouvé très forte? Parce que je trouve l'un des traits de la bande-annonce, c'est que tu vois tout le truc pendant le... Tu sais, t'es au cinéma, parfois tu te fais tous les trucs.
Oui, mais...
Et tu te dis, ouais, ça y est, j'ai tout vu. Tu vois ce que je veux dire?
Mais parfois, c'est ça qui fait quand même aller en salle, c'est ça qui est étonnant.
Mais c'est plus qu'avant, on met un peu plus maintenant.
C'est vrai que tu vois beaucoup et tu te dis, ok, j'ai vu le film. Enfin, moi, en tout cas, des fois, je me dis, effectivement, ok, j'ai vu le film.
Il y a un peu trop parfois, tu te dis.
Là, j'ai revu celle du livre des solutions qui va sortir bientôt, je l'ai revu là hier, donc. Pour moi, elle montre le côté comique et en même temps, on dénature pas le film et on voit pas tout ce qui s'y passe.
C'est vrai que la salle reste encore, je trouve, le bon lieu pour voir les bandes annonces. C'est toujours un moment sympa.
Ouais.
On n'est pas aux US. Moi, j'aime bien aux US parce qu'ils t'en passent 20, quoi. Ça dure super longtemps.
Bah là, c'est quoi? C'est 4, 5. Là, celle de...
Non, mais ça devient de plus en plus longtemps. Et puis même les pubs et tout, tu sens qu'ils allongent un peu ce moment. C'est assez sympa, moi, j'aime bien.
Et puis ça, soit on le paye, soit les exploitants le font gratuitement pour montrer. Donc, c'est toujours... Il y a la volonté des exploitants aussi dans ce processus-là.
Bon, en tout cas, là, je pense qu'on a bien couvert sur toute la com' digitale. Je crois que tu voulais parler aussi de tout ce qui est influenceur, que c'est un peu nouveau maintenant. On passe un peu plus en direct qu'avec des agences, tu me disais.
C'est ça, moi, je passe beaucoup en direct maintenant parce que, justement, je mets les réalisateurs au plus possible à profit pour qu'eux soient en direct. Même, on a eu des cafés avec des influenceurs et des réals où juste on parle
de
ciné.
Tu mets quoi dans les influenceurs? C'est à la fois un fan de cinéage que quelqu'un...
J'aime pas trop ce terme, en vrai, d'influenceur.
Oui, j'aime pas non plus. Je préfère content maker, moi.
Complètement, j'allais te dire créateur de contenu. Alors c'est vrai que tout le monde comprend plus quand on dit influenceur, mais en soi c'est des créateurs de contenu qui soient vraiment focus ciné ou plus large ou même sur tu vois, des dimensions plus politiques ou selon les films que tu as, tu vas chercher un peu
ou un peu micro-trottoir. Maintenant ils font des pubs même avant les films où tu vois comment les mecs réagissent en sortie de salle.
Et même, tu vois, j'ai eu la chance de mettre de proposer à Pierre Ninet de faire Eric et Ramzy à Cannes. Pour le coup, à la base, on se dirait pas qu'ils sont créateurs de contenu, mais là, ils l'étaient. Dans le cadre de Cannes, c'était clairement des créateurs de contenu.
D'accord.
Donc,
ça, c'était dans le cadre de la sortie?
C'était dans le cadre de la présentation à Cannes.
D'accord.
Du film. où on faisait différents... Enfin, tu sais, t'essayes de faire vraiment rayonner ton film et de lui faire faire le plus de presse possible, et notamment de presse digitale. Et donc...
C'est là que tu vois que le truc a changé de main, parce que maintenant, tous les acteurs, les réals, ils sont picousés aux social media.
Ah bah ouais, ouais.
Ça
ouais.
a vraiment inversé le truc, quoi.
Ouais, ouais,
et
ouais,
d'ailleurs, je crois que c'est même contractuel maintenant, sur aussi le côté d'occuper
ouais.
le terrain sur des sorties ou des... superbe. Alors, on arrive dans la dernière partie du podcast. Tout d'abord, c'est la question qu'on je pose aux auditeurs, c'est, pardon, aux invités, c'est les tes goûts. Alors, ça peut être indépendant de Dare the Jokers, un film, une série, une BD, une expo, une musique qui t'a marqué,
alors,
toi.
Mes goûts. Moi, je. Alors, en ciné, on va commencer. Alors, je suis cinéma asiatique quand même, beaucoup. Je suis très Koreeda en fait.
Hirokazu
Koreeda, Hirokazu, c'est
Koreeda.
Ouais, c'est bon, il y a quoi, il y a le plus connu, c'est Une affaire de famille qui a eu la palme il y a quelques années, et puis sinon les bonnes étoiles récemment, enfin voilà, il y a Monster qui a été présenté aussi à Cannes. Donc voilà, ça c'est un peu ma base. Wes Anderson aussi. Mm-hmm. Et sinon j'aime beaucoup Todd Haynes, enfin voilà, il y a plein de réals comme ça un peu sur des noms. Cinéma français aussi. Après, sur des lectures, c'est une bonne question. Je lisais beaucoup de BD à un moment donné, là j'ai plus le temps, mais j'étais beaucoup dans les librairies à lire des BD. Et expo, j'en fais assez peu, j'avoue. Je ne suis pas très bonne élève là-dessus.
D'accord.
Mais,
et ciné français, alors ça serait qui du coup?
Ciné français, j'aime beaucoup Lisa Azuelos.
Ah oui. Tu l'as vu son film? Il l'a vu, mon
la
père.
La chambre des merveilles, pardon, je l'ai pas vu.
Le pitch était bon, quoi.
Le pitch était très bon.
Donc c'est une dame qui est dans le
C'est le fils qui va être dans le coma, il me semble, enfin qui a un accident.
Enfin, c'est tous
et
les
la
rêves
mère...
qu'aurait aimé faire le
Exactement.
Fils, et c'est la mère qui va revivre chacun des rêves dans
Exactement.
Le monde entier. Et non, c'est le pitch.
Et
était
après
pas mal.
Dupieux, là, moi j'ai qu'une attente, c'est de voir le prochain Dupieux.
D'accord. Donc Steak, tout ça, t'aimes bien.
Ouais.
Il est complètement barré, lui. Il n'est pas sorti chez Jokers, Dupieux.
Non.
C'est un petit cousin de Gondry, lui.
C'est exactement comme ça qu'on le réfléchit, en tout cas. Mais
c'est un ovni, quoi.
C'est génial. Et puis après, bon, bah, les bases. Hein,
C'est quoi, ouais, finalement, quand on reparle du ciné français, toi, tu trouves des dernières années, qu'est-ce qui est vraiment sorti du lot? Parce qu'à un moment, on parlait beaucoup d'Audiard, Jacques Audiard.
Ouais.
Lui, il a un peu disparu, j'ai envie de dire. Enfin, non, il n'a pas disparu,
ouais,
c'est un peu méchant.
Il est un
mais
peu moins.
Mais bon, il y avait un prophète qui avait marqué, évidemment, ouais. à l'époque. Mais qu'est-ce qui finalement reste, tu trouves, des dernières années? Si, il y a le film, j'ai beaucoup aimé le film de Jeanne Herry, là, Je verrai vos visages.
Oui,
là.
Bien sûr.
Tu l'as vu, ça, c'était pas
oui,
mal.
Oui, ça, c'est une sortie énorme. Oui, c'est bien. C'est très, très bien, mais c'est une sortie énorme. Non, moi, je te dirais, mais après, moi, c'est sur du ciné d'auteur. Ben oui, j'ai envie de te dire Dupieux. Et puis après, il y a des petits noms parfois qui font des petites pépites, tu vois. Je sais pas, j'ai en tête Rien à foutre. J'ai en tête, parce que tu vois, je fais le lien. Je pense à Adèle, donc je pense à Adèle Exarchopoulos et du coup à la suite. Mais il y a énormément pour moi de noms de jeunes cinéastes français.
La nuée, alors je vois La nuée là de Juste
Exactement,
Philippot.
J'allais t'en parler. Acide qui va sortir, le Juste Philippot qui est un futur.
Donc pour sauver sa ferme de la faillite, Virginie se lance à corps perdu dans le business des sauterelles comestibles. Peu à peu, ses enfants ne le reconnaissent plus. Donc Juste Philippot, lui c'était son premier. Hein.
Ouais, donc, cinéma de genre total là.
Ah oui, et
tu
puis après il a refait son film avec Guillaume Canet, je
c'est
crois.
C'est ça, Acide.
Parfait. Donc super pour tes goûts. Et puis la toute dernière question, c'est les conseils que tu donnes à une jeune qui veut se lancer dans le monde du divertissement, on va dire dans la com digitale, un peu comme tu as choisi dans
com
cet
digital
univers.
Global c'est
et entertainment, on va mettre le petit
on va
combo.
Mettre, okay. Et c'est de faire de la veille beaucoup. Nous, on nous a martelé ça beaucoup en école et du coup, ça est devenu une habitude. Beaucoup de veille, de regarder les campagnes qu'on aime, celles qui sont impactantes, celles qui le sont moins. Et puis, tout simplement, y a des formations qui mènent très bien à ça. Et les stages, ne jamais hésiter à faire des stages.
Mmh.
Même en été, même sur son temps off, toujours essayer de se développer un peu.
Bon, écoute, merci beaucoup Cornelia.
Merci beaucoup à toi.
C'était un plaisir de t'avoir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au brain entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.